sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir réveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas. Moulinisme. N.M. Initié dans la ville de Moulisme, F.R., le moulinisme est un moyen d'action opérant hors du système monétaire. Il peut se pratiquer seul ou en collectif. Madame, Monsieur, bercé depuis tout jeune par la publicité afin de nous faire consommer divers produits, des plus inutiles jusqu'aux plus essentiels comme l'alimentation, il devient impossible pour beaucoup d'entre nous, comme vous peut-être, caissier, agent de sécurité, responsable de magasin, de subvenir correctement à nos besoins élémentaires. Puisque l'on en a marre de la malbouffe premier prix, chimique, nocive, dégueulasse, nous avons décidé de nous servir dans les rayons des grands magasins. Prendre un produit, laisser une carte. Nous souhaitons attirer l'attention des pouvoirs publics face au gaspillage et aux inégalités sociales révoltantes. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus sincères et déterminés.
Rayon bébé, Henri, jette un œil. La fille enceinte avec une robe bleue. Fais des petits pots.
La fille enceinte. Quelle fille enceinte? Dis-moi, Corto, serait-ce possible que ce soit elle? Comme pour moi-même, je souris. D'excitation, je serre tellement le stylo dans ma main qu'il va finir par se briser si je n'y prends garde. Si jamais c'est elle, c'est qu'il y a un dieu des vigiles, une sainte trinité de la sécurité. Que dis-je? Une puissance universelle dont le regard s'est enfin tourné dans ma direction. Parce que une visite pareille, par une journée si merdique, c'est comme le bouquet final un soir de 14 juillet. Bien qu'on soit en décembre et que la température frise le zéro dehors. Mais bon, l'image est belle. Aujourd'hui, je me sens des envies de déprime abyssale. Alors, si c'est elle, elle tombe à point nommé. D'emblée, je me mets au boulot, orientant ma caméra et zoomant à tout va. Pas très rapide pour ma décharge. Il faut dire que je ne suis pas gâté pour le secteur alimentation. Une bécane pour 8 rayons, c'est pauvre. La bécane qui peut certes pivoter à 360, mais quand même, c'est pas la joie. Si vous avez vu la tête de l'angle mort. Bon. Alors les petits pots, les voilà. Eh bien, on est gâté côté femme enceinte. Alors, quelle couleur de robe a-t-il dit? Bleu, c'est ça? Voilà, ça y est, j'ai la fille. Oui! Là, vous ne me voyez pas, mais il faut s'imaginer me levant d'un coup sec, presque les bras au ciel. Un but viendrait d'être marqué, ce serait pareil, à la seule différence que la rangée de supporters, je l'ai fait à moi tout seul. Cheveux courts, visage en amande, mignonne en plus, ce qui gâche rien, robe de grossesse généreusement gonflée et rebondie, cambrure un peu exagérée, pied légèrement en canard, sourire de bonheur, extatique, presque niais. Pas de doute, c'est bien elle. Il n'y a que Marie-Cécile pour oser traverser nos rayons dans un état pareil et surtout avec une telle expression angélique. Je regarde ma montre, il est à peine 9h30, le flot des clients commence déjà à croître à la manière d'un torrent au début de l'orage. Nous ne sommes pourtant ouverts que depuis une demi-heure, mais voilà, c'est la première ouverture exceptionnelle de décembre, celle du milieu du mois avant le grand rush du 23 et du 24. Corto ? Oui, Henri ? Fichu parasite, combien de rapports faudra-t-il entendre, encore faire à la maintenance pour qu'elle règle le problème ? Bon, Corto, qu'est-ce qu'on fait ?
Comment ça, qu'est-ce qu'on fait ? On peut pas la laisser comme ça, j'ai une réputation à tenir, moi.
T'as une idée ?
Je sais pas trop, Henri, peut-être bien. Mais j'ai besoin de matériel, je reviens dans 5 minutes. En attendant, tu la quittes pas des yeux.
Les yeux. Si seulement je pouvais la suivre des yeux. Mais non, tout ce que j'ai, c'est un terminal informatique. 10 écrans, une souris et un clavier. Et débrouille-toi avec ça. Bon, Marie-Cécile. Elle reprend l'allée centrale avec son caddie. Je passe sur la caméra 12, la générale. Ça y est, je distingue ma grosse en bleu tout au fond. Elle s'engage vers les fruits et légumes. Petit clic de souris, j'oblique sur la 6, changement d'angle et de proportion, gros plan sur les... ne pas s'égarer. Donc, plan large. Marie-Cécile s'arrête automate, tire un sachet plastique, fait ses emplettes calmement, comme si elle n'avait rien à craindre, rien à se reprocher, elle se croit. Car elle le sait qu'on ne peut pas le laisser aller à terme, le polychinelle qu'elle a dans le tiroir. Ben oui, Marie-Cécile, celui-là, ce sera comme les 23 autres. Va falloir te l'avorter, Fissa, t'inquiète pas, tu le sais. Nous sommes des gentlemen, nous allons tâcher de faire ça proprement. Enfin, proprement. Si j'avais su ce que manigançait Corto. C'est que c'est pas un métier facile que le nôtre, hein, parce qu'il y a la clientèle et qu'on peut pas se permettre un scandale. Donc, bah faut renoncer au coup de scalpel qui trancherait la robe de haut en bas. Et où qu'il est le petit monstre ? Non, faudrait être plus subtil. Mais Marie-Cécile connaît toutes nos astuces. Vous pensez, à force, une fois... Elle nous a même mis dans un sacré pétrin à hurler dans tout le magasin que c'était même pas légal de lui faire ça. Mais bon, on l'a tout de même coincé. Depuis, on se méfie. Et Corto doit à chaque fois se fendre, si j'ose dire, d'une nouvelle idée géniale pour lui ôter l'indésirable qui la rend bedonnante. J'ai hâte de savoir ce qu'il a inventé. Le délai des 5 minutes est largement dépassé.
Elle est où, Henri ?
Même, c'est que j'ai failli attendre. Marie-Cécile a pesé ses tomates et se dirige benoîtement vers les déodorants. Elle sort des fruits et légumes. Et toi ?
J'arrive à l'entrée, je reviens de la galerie marchande. Mets la 2 si tu veux me boire.
Je me replonge dans mes écrans. Caméra 2, plan large sur l'accueil, un comptoir de bar revisité, manufacture, des ordinateurs, des guirlandes, en veux-tu, en voilà. Façon, bienvenue pour les fêtes. Et 3 filles qui s'expriment à répondre aux questions d'une petite foule de clients. Au pied des portiques électroniques, on lisait dans son marasme le collègue en faction, comme disent les flics, un men in black tout nouveau, intérimaire depuis 2 mois. Costume noir impeccable, chemise blanche, petit badge vissé sur la poche, et le logo d'Univers Security en gros, les lettres encastrées dans une étoile dorée, même que ça fait un peu shérif. Sous le logo, il y a sa photo, noire la photo, normal, vu qu'il est noir lui aussi. Mais bon, attention, c'est un hasard s'il est à l'entrée. Ça n'a rien à voir avec la couleur de sa peau. Il aurait pu faire n'importe quel autre travail, manager de rayon par exemple, on est bien d'accord. Ici, nous sommes une grande famille, pas de ségrégation à l'embauche. Enfin, sauf peut-être l'année dernière, en janvier, pour la super promo du Nouvel An chinois. J'ose pas croire à un hasard, parce que qui a été embauché pour fourguer du nem sous cellophane ? Eh ben ouais, bien bridé le personnel, histoire de donner du cachet, de l'authenticité au port caramel made in France. Notez au moins... Ils ont eu du boulot. Donc une sorte de ségrégation positive, non ? Voilà, voilà. Et sur la 2, du passage, des caddies, encore des caddies, des mômes qui courent, le man in black qui paraît même plus les voir, un hochement de la tête pour prouver qu'il est encore vivant. Pour le reste, main dans le dos et garde à vous, façon sentinelle. Son visage s'illumine. Un sourire. Non, c'est même un petit rire. Alors quoi, qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Et Corto, bien sûr. Ce type doit avoir un don, je sais pas comment il fait. Mais il est pote avec tout le monde, même avec la fille des ressources humaines, celle que tout le monde appelle l'iceberg. Et bien de temps en temps, elle lui sourit. Que ça en laisse quelques-uns pantois, parce que on peut pas vraiment dire que Corto et moi soyons en haut de l'échelle hiérarchique. Et donc mon man in black, là, le salue et lui tape sur l'épaule. Je distingue pas ce qu'ils se disent, mais Corto rigole lui aussi. Je zoome, qu'est-ce qu'il tient à la main ? Un coca ? J'ai Marie-Cécile sur le feu, il va s'offrir un gobelet de coca. Corto, qu'est-ce que tu fous ? Corto a un léger soubresaut. Petit salut vers le pote en faction qui comprend que la pitié, c'est moi la pitié, c'est mon petit surnom, je vous expliquerai, que la pitié donc est en train de lui beugler dans l'oreillette au Corto, et que dans ces moments-là, il y a urgence et qu'il vaut mieux pas nous distraire. Corto fait quelques pas, il sait parfaitement où est dissimulée la caméra dans le faux plafond, il me balance un regard torf par la vidéo interposée, puis saisit le petit micro fiché sur le bord de sa veste. On y va, mon gros ? Oh, la ferme, grande asperge. Bon, c'est quoi ton idée ?
Oh, tu verras bien. Après tout, on me paye pour ça, pour mes idées. Il s'agirait que je protège mon fonds de commerce. Maintenant, Donne-moi sa position exacte à la Marie-Cécile. Et admire le travail d'un cerveau.
Petit con. Qu'est-ce qu'il ferait sans moi, le cerveau?
Tu verras quand je serai plus là. Bon, alors. Marie-Cécile, je l'ai pas quitté des yeux, la bedonnante. Je me laisse pas de voir se dandiner dans les rayons. Avec de temps en temps un petit arrêt pour poser cette main là sur cette masse énorme qui lui masque la vue de ses pieds. C'est attendrissant de la voir ainsi à l'écoute de sa progéniture. Alors Marie-Cécile, il donne des coups de pied de temps en temps? Mon Dieu, quand je pense qu'il va falloir mettre fin à un amour maternel déjà si intense. C'est vrai, nous sommes un peu des monstres, mais il faut bien vivre. Et puis, la loi, c'est la loi. Nous ne sommes coupables que de l'appliquer. Corto, tu me reçois? 5 sur 5, elle est où notre cliente? Elle traverse l'alimentation pour animaux. Elle est bientôt aux caisses, magne-toi. Indique-moi seulement quand elle arrive au bout de la gondole, au bout de gondole. La une, hop, j'ai toute l'enfilade des caisses en vue. Tout au bout, Corto qui marche d'un pas vif à la rencontre de la future maman. La 4, panorama sur 3 rayons. Celui du milieu, Marie-Cécile, qui est indifférente aux croquettes pour chats maxi-vitaminées et aux litières bio-parfumées à la forêt des Landes, entame la dernière ligne droite qu'elle dévore. C'est dire si elle est sûre d'elle. Elle en oublierait presque son dandinement de canard souffrant d'aérophagie. La 1, Corto est à mi-chemin. La 4, Marie-Cécile est en vue des caisses, plus qu'une dizaine de mètres. Corto, dépêche-toi! La 1, Corto qui accélère. La 4, Marie-Cécile en bout de rayon. Elle arrive. 3 mètres, 2, 1, collision. Dommage, le zoom de la 1 me permet à peine de voir l'expression des visages. J'essaie de comprendre la stratégie de mon pote. Je revisionne la scène. Pour ça, c'est pratique la vidéo. Hein. Ralenti, voilà, il entend mon signal, il arrive en bord de rayon. Sans décélérer le pas, il fait celui qui ne voit pas le caddie et s'encastre dans Marie-Cécile. Enfin non, il la bouscule à peine. En fait, il en profite pour lui renverser le plein gobelet de coca sur sa robe de grossesse. Splash ! 50 centilitres, un gros demi-litre à la santé du petit dernier qui avale tout le petit dernier d'un trait. Et c'est à peine si quelques gouttes arrivent au sol. Quelle descente ! Mais le pire, c'est peut-être cette tache. Une auréole large comme une plaque d'égout brun sur fond bleu. Oh. Où en sont-ils maintenant ? Ah, Marie-Cécile est folle de rage, elle crie. Bah oui, forcément, une robe si bleue, si propre. Dommage que j'ai pas le son. Et Corto avec son sourire désolé. On croirait presque que ces deux-là se connaissent pas. Une brave dame délaisse son caddie pour s'en mêler. Très chic la dame, hein, la soixantaine, tailleur, un petit chignon, très sobre. Un rien exaspéré. Faut la comprendre. Une pauvre jeune fille enceinte jusqu'aux dents, victime de la maladresse d'un butor. Il y a de quoi réveiller la mère ou la belle-mère qui sommeille en toi. D'autant plus que le butor a l'air sympathique, mignon. Le profil du genre idéal. Hormis, bien sûr, les deux boucles d'oreilles et ce nœud étrange dans les cheveux. La brave dame prend à témoin un couple qui s'est approché. Elle fixe son regard sur Corto.
Bah, et alors, mon garçon? Elles viennent, ces excuses?
Mon Dieu, le buteur en question est un employé du magasin. Mais regardez son badge sécurité. Mais où il se croit, consommer des boissons pendant le service? Que fait la direction?
Y'a pas. Corto a besoin de moi. Je pousse un soupir, gros comme mon mal de dos. Il me faut tout de même 2 bonnes minutes pour arriver sur place. Depuis que je fume plus, je souffle un peu, mais pas trop. Depuis que je fume plus, je peine moins dans les escaliers. Un petit attroupement a eu le temps de se former au centre. Marie-Cécile est à ses côtés, la dame qui, à ma vue, mon arrivée faisant toujours son effet, se calme immédiatement. Ça doit être mon ventre. C'est vrai qu'un obèse, ça doit pouvoir comprendre une femme enceinte. C'est ce qu'elle se dit sans doute, la petite dame. À moins, bien sûr, qu'elle ne soit effrayée. Faut dire que c'est pas très ragoûtant, toute cette laideur concentrée. Ce visage bouffi, cette proéminence du ventre et ce cul comme une bétonnière au milieu de la route. Pourtant, elle ne montre pas son dégoût. J'ai même l'air de la rassurer un peu avec mes 50 ans, mes cheveux grisonnants, mon physique à coller une raclée à n'importe qui et le badge sur ma veste, responsable, sécurité, magasin. Non, pas de logo de merde, pas d'étoile à la John Wayne. Ça aussi, je vous expliquerai pour toi. Alors, la brave dame, voyant en moi le supérieur hiérarchique, tente de me résumer la situation. Bon, je fais celui qui est au courant de rien, j'écoute d'une oreille distraite. Marie-Cécile m'a reconnu, elle m'a souri. C'est bon signe, ça veut dire que peut-être je vais échapper aux insultes cette fois. Les regards sont rivés sur moi. Les clients, amassés là,
paraissent attendre une décision. Alors, vais-je convoquer le responsable du rayon habillement pour offrir une nouvelle garde-robe à Marie-Cécile? Ou bien, de ma voix à Auguste de Salomon, vais-je condamner ce misérable employé? Un blâme! Allez, ne soyons pas chiches. Un licenciement pur et simple. Il l'a bien mérité. Et dans un excès de zèle, je propose que la note du teinturier soit retenue sur son salaire. Tiens, ça lui fera les pieds. Bon, mais rien de cela, je me tourne vers Marie-Cécile. Mademoiselle, pouvez-vous me suivre jusqu'à mon bureau? J'aimerais vous examiner. La dame bondit. Son chignon s'est desserré, carrément. Ses cheveux s'éparpillent peu à peu à chacun de ses mouvements, ce qui, j'y peux rien, lui donne des airs de chat sauvage. Mon cauchemar.
Mais vous n'avez pas les compétences? Et vous en avez assez fait avec votre collègue? Si quelqu'un doit examiner mademoiselle, ce sera un médecin?
Je me démonte pas, je bouge pas. Je suis très fort pour ça, l'impassibilité. 140 kilos de chair immobile. Ça invite à la méditation. C'est comme un rocher en équilibre, ça paraît stable. Mais on se méfie, car on sait jamais où ça va tomber, et si ça doit tomber un jour. C'est déjà tombé d'ailleurs, une seule fois, mais tout le monde s'en souvient dans le magasin. Donc sans le savoir, elle a raison de surveiller mes oscillations, la petite dame. Un an, je passe. Voilà, je fais mon effet. Elle reste circonspecte. Et avec elle, le reste de la meute qui, expectative, contemple. Vous avez raison, madame. La demoiselle ferait bien de voir un médecin, vu qu'il me semble qu'elle est en train de perdre les os. Regard convergent de la clique vers la dite demoiselle. La demoiselle, dont les mollets se souillent peu à peu d'un liquide brun et sirupeux, je suis pas spécialiste, mais à vue de nez, je dirais du coca. Comme si ça lui sortait de l'intérieur, directement d'entre les jambes. Et c'est pas tout. Il y a ce ventre qu'elle peine à maintenir entre ses mains, car il descend. De plus en plus, il boudine, se joue de l'élasticité de la robe de grossesse, dégouline comme un chamallow géant. C'est plus un marmot que tu attends, Marie-Cécile. C'est un mollusque dont les propriétés échappent aux lois de la nature.
Mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive?
Comment vous expliquer, madame? J'aimerais être sérieux, mais il y a Corto et son sourire jusqu'aux oreilles. Il y a le fou rire de Marie-Cécile qui contemple son ventre monstrueux dont elle ne sait plus quoi faire. Contenir à deux mains un tel volume n'est plus guère possible. Pivoine, la respiration ponctuée de hoquets à défaut de sanglots, elle semble hésiter quant à la conduite à tenir. Moi, je suis sur mes gardes. Osera-t-elle cette fois encore s'abandonner à l'outrance d'un scandale? Trouvera-t-elle l'énergie, les ressources théâtralement suffisantes pour déclencher un nouvel escandre? Elle relève le menton. Je lui envoie le plus complice de mes clins d'œil. Elle replonge Fissa vers son corsage pour ne pas exploser de rire. Bon signe. Moi-même, je suis nerveux comme un pou. Oui, j'ai autre chose à faire que de longs discours. Dans ces conditions, vous réussiriez, vous, à être sérieux? Je regarde la dame, prends un ton professionnel. Je sais très bien faire ça. J'aurais fait un bon comédien, moi aussi. Écoutez, madame, il vaudrait mieux vous écarter. On a eu un cas comme ça l'année dernière. Vous savez que nous sommes à moins de 80 km de la centrale?
Pardon?
Ils essayent de le cacher au grand public, mais il y a des accidents, il ne faut pas le nier. Radiation, tout ça... Voilà pourquoi on va emmener mademoiselle consulter. Écoutez, je pense que vous n'avez pas à craindre pour votre santé, mais si vous êtes prise de picotement ou de migraine, n'hésitez pas à voir un médecin. La dame paraît abasourdie. Sans trop savoir si c'est du lard ou du cochon, elle fixe la flaque brune au pied de Marie-Cécile, puis le ventre déformé, que ce n'est plus un ventre, mais un amas de guimauve fondu. Tout ça sans compter Corto qui en rajoute une couche. On a eu des cas comme ça en Biélorussie après l'accident. Vous vous souvenez peut-être, Tchernobyl? Bien joué, Corto, non vraiment. Dire une phrase pareille tout en tapotant ton badge distraitement, juste de quoi attirer le regard de la dame sur ton nom. En lisant Piotr Evdokemolev, elle a eu un léger sursaut, comme touché par une décharge électrique, de quoi faire un pas en arrière. T'as vu comment elle te regarde, Corto? Aucun doute, tu dois être irradié. J'ai embarqué Marie-Cécile par le bras. Elle a filé sans demander son reste, et ce n'est qu'au début du rayon qu'elle a pu, enfin, donner cours à son hilarité. Corto nous a rejoints au pied de l'escalier alors que nous étions aux échanges de mouchoirs pour essuyer nos yeux. Bonjour, Marie-Cécile.
Bonsoir, Corto.
Bon, désolé pour la robe.
Oh, pas grave.
Nous montons. Je pousse la prévenance jusqu'à installer Marie-Cécile dans le petit local adjacent à la salle vidéo. Corto récupère un sac poubelle qu'il étale en grand sur la table. On va essayer de pas tout mettre partout. J'appelle Sylviane, la collègue de la compta. Elle Elle a l'habitude de ce genre de choses. Et puis, c'est une femme, c'est mieux s'y prendre que nous. Corto offre à Marie-Cécile un café. Nous lui demandons des nouvelles de son père. Elle confesse avec douceur qu'il s'est remis au golf, qu'il envisage de s'acheter un cheval. Ah, monsieur Perrochaud. Monsieur Perrochaud, on vous regrette. Non, vraiment. Depuis que vous êtes à la retraite, tout a changé ici. Même votre fille qui se permet de nous faire des coups pareils. À nous. Voyons, Marie-Cécile. Le sang-froid de cette fille m'étonnera toujours. Elle me connaît bien, je l'ai vue grandir. Vous pensez, 30 ans de boîte, médaille de travail. Bientôt l'or, si jamais il me garde jusqu'à 35. Enfin bon, inutile de se leurrer, ça sera la retraite anticipée, hein, dans 2 ans. 2 années à cultiver mon ulcère. Rien que d'y penser, j'ai l'estomac comme une fournaise. Bon, et Corto, sans moi, il deviendra quoi? Hein? Je contemple Marie-Cécile. Elle me parle comme si de rien n'était, sans véhémence aucune. Comme si notre intervention n'était qu'un incident parmi d'autres dans sa journée. Sylviane finit par arriver, joviale, comme à son habitude. À mon adresse, elle demande.
Dis, Henri, il y a une dame à l'accueil qui parle de radioactivité de centrale nucléaire. Il paraîtrait que 2 personnes de la sécurité se seraient payées leur tête. Ça te dit quelque chose?
Je détaille son sourire. Je crois que tout ça l'a fait bien rigoler. Passe la consigne. Dis aux filles de prendre note. Elles n'ont qu'à rajouter qu'elles transmettront au directeur. D'habitude, ça suffit à calmer ce genre de personnes. Et glisse-leur aussi que l'heure de revaudrait ça.
Méfie-toi, Henri. Tu vas finir par en avoir une sacrée ardoise là-bas.
Puis elle se tourne vers Marie-Cécile.
Bonjour, mademoiselle Perrochaud. Vous payez par chèque ou par carte bleue?
Et voilà. Corto et moi pourrions quitter la pièce. Mais comme lui, je préfère malgré tout jeter un œil sur la suite. Non que je sois voyeur, mais je me méfie comme de la peste de la demoiselle. Elle a plus d'un tour dans son sac. J'observe donc, tandis qu'elle relève sa robe de grossesse. Elle peine un peu, le tissu est tendu au maximum, et il y a cette bosse étrange, ce renflement qui semble pousser au niveau du nombril, comme dans ce film, Alien, où une espèce de monstre horrible se fraye un chemin jusqu'à la lumière. Bruit d'une fermeture éclair, splash humide d'un corps poisseux sur le plastique de la table. C'est rouge, presque pourpre. Elle a bon goût, Marie-Cécile. Elle se tourne d'ailleurs vers moi avec un regard ennuyeux.
Ça tâche le cola?
Je hausse les épaules pour toute réponse. Sylviane commence l'inventaire.
Nous disons donc un pull cacharelle. Ensuite,
Marie-Cécile extirpe une à une les pièces de tissu de son ventre. 1 dizaine de sous-vêtements, culottes, soutien-gorge, des bas en pagaille, quelque chose qui me semble être une jupe. Ça dégouline un peu. Un accouchement douloureux. Sylviane se crispe légèrement.
Bien sûr, mademoiselle a arraché toutes les étiquettes.
Calmez-vous, Sylviane, tous les codes-barres sont au rayon bricolage, juste sous la peinture. Si Corto y va, il devrait les retrouver facilement. Sourire vers Corto, clin d'œil complice du beau gosse à la jeune maman. Corto fait un signe à Sylviane. Je m'en occupe. Je quitte la pièce à sa suite. Je note comme pour moi-même 24 fois. C'est la 24e fois que Marie-Cécile retente le coup de la femme enceinte. C'est une coriace, hein, une pugnace. Je suis sûr qu'elle finira bien par trouver la faille. Ou nous avoir à l'usure. Bon plan, après tout. La femme enceinte n'est-elle pas intouchable? Nous ne pouvons exiger d'un client qu'il vide ses poches si nous l'avons pris sur le fait. C'est d'ailleurs ma principale activité. Filmer les petits voleurs en train de décacheter les produits pour les dissimuler dans les endroits inimaginables. Mais dans le cas de Marie-Cécile, rien. Nada. Jamais j'ai réussi à la prendre sur le fait, jamais. Chaque fois, nous l'avons découverte sans larcin effectué. Donc, enceinte, le bide chargé de fringues, pas n'importe lesquelles, elle se fournit toujours dans le rayon des grandes marques, une zone d'achat plaisir, comme dit notre directeur marketing. Nous savons bien sûr que se vendre, c'est du flan. Encore faut-il prouver. Sans vidéo compromettante, impossible de l'arrêter. Le jour où Corto sera à court d'idées, il faudra donc se résoudre à la laisser partir, la voir franchir les portes électroniques comme une fleur, lui faire peut-être une aide d'honneur, voire comble de l'humiliation, lui souhaiter un bon retour chez elle. Bonne journée, madame, puis rentrer au local et pleurer sur notre défaite. Je rejoins mon poste avec une pointe de regret et m'enfonce dans mon siège. Il grince un peu sous mon poids. Je recule au maximum, un petit mètre cinquante, bruit des roulettes sur le lino. J'aime bien travailler ainsi, avec une vision globale des écrans. Sur la 12, je vois Corto qui se faufile dans le rayon bricolage. Il doit chercher les codes-barres. C'est important pour Sylviane afin qu'elle puisse préparer l'addition de Marie-Cécile. C'est que la demoiselle peut régler. Elle fait pas ça pour l'argent, mais pour le plaisir, semble-t-il. Un peu maladif aussi, je crois. J'ai entendu dire qu'elle voyait un psy quelque chose. À moins qu'elle veuille faire payer à ce magasin les années volées à son père, cette enfance où elle ne le voyait qu'en filigrane, quelques heures par semaine quand la direction du magasin lui en a laissé le temps. Monsieur Perrochot. Ouais, une autre époque. Bon, bien sûr, je pourrais prévenir la police. Bah, quoi bon. Marie-Cécile n'a jamais fait de difficulté, elle est la plupart du temps charmante, hormis les rares fois où nous l'avons poussée à bout. Et puis après tout, elle fait partie du folklore. C'est une joueuse, et dans un boulot pourri comme le mien, une joueuse pareille, c'est une bénédiction. Bon, bien sûr, elle recommencera. Évidemment, j'espère bien même qu'elle recommencera. Elle est un cas particulier, une petite exception qui suffit à elle seule à justifier nos postes, à Corto et à moi. Petite fée capricieuse et opiniâtre, qui par ses facéties illumine nos quotidiens merdiques. Qu'on se dit après son passage, finalement, la journée a bien commencé.
Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire que vous l'êtes bien, c'est certain, c'est certain. Moi qui vous vois toute la journée, vous avez pas l'air de rigoler, le matin vous partez au boulot, le soir vous rentrez au tombeau. Je veux pas cracher sur vos petites vies, mais quand même elles m'ont l'air pourries, vous allez bouffer en grande surface, vous devrez savoir que c'est dégueulasse. Vous prenez jamais le temps de rien, vous en éteignez comme des chiens, et puis après pour vous calmer, vous en achetez une nouvelle télé. Je crois que ça va vous faire du bien, les téléfilms américains, la propagande de l'autre B, les jeux où on gagne du pognon. Vous avez pas encore compris que vous en aurez jamais assez, que c'est empli de mépris qui vous boufferont jusqu'au trognon. Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire que vous l'êtes bien, c'est certain, c'est certain. Si j'avais voulu l'inventer avec toute ma bonne volonté, jamais je serais allé si loin, c'est certain, c'est certain. Dans le même panier, vous pourriez pas tous y rentrer. Puis moi, ça me filerait le bourdon de voir une telle concentration. Constellation, conspiration, consternation. La connerie individuelle, même si parfois elle me dépasse, ne sera jamais aussi cruelle que la sacro-sainte connerie de la masse. Celle qui nous fait faire la guerre, qui nous fait voter pour des cons, qui dans un land instinct grégaire nous fait respecter notre patron. Cet enfoiré, si on nous kiffait son pognon, il nous la met toute la journée, il faudrait qu'on reste mignon. Et je vous parle pas des banquiers qui ont dévalisé le monde entier sans que personne lève le petit doigt. Moi j'ai pas droit au chic en bois, toi tu as droit, non, tu as pas droit, toi t'es comme moi. Mais que faudra-t-il qu'ils nous fassent pour qu'au final on réagisse si les familles nous laissent de glace, si Serge Dassault protège nos vices. Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire qu'il y a des gens bien, c'est certain, c'est certain, c'est certain. Ils sont 200 fois plus nombreux que la bande d'imbéciles heureux qui nous emmène tous au carton avec trompette d'éclairant. Même c'est qu'on se parle pas, coincé dans le chacun pour soi, persuadé qu'on est les seuls à voir qu'on va se manger la gueule. Alors je lance ça sans trop y croire, parce que je dis de musique et d'espoir, mais là vraiment il serait grand temps que le bon peuple montre les dents. On explique qu'une fois pour toutes à ces salauds qui surfent nos doutes qu'on va les jeter en prison. Ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Pas qu'il y a déjà peut-être parce quoi. Puis quand on est là réunis, on a qu'à décider d'un jour. Moi je proposerai le lundi pour enfermer tous ces votants. Je sais pas où ça nous mènera, mais ça pourra pas être pire que de laisser à ces scélérats le soin de bousiller notre avenir. Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est que je sais pas comment vous dire qu'une petite révolution nous redonne à tous ce sourire.
Centre commercial Les Méridiens de l'Éden, c'est énorme. C'est rouge, virant sur les tons orangés, surplombant l'horizon plat de la ville, les lettres de 4 mètres de haut s'imposent sur toute la longueur du toit. Comme les blasons sur les châteaux forts d'autrefois. Mais sans colline, le château, et sans tour, ni donjon. Juste un gros cube massif. Ce qui n'empêche que pas que, de là-haut, on puisse embrasser d'un coup d'œil tous les environs, le centre commercial étant un des bâtiments les plus élevés de la région. Je travaille ici, dans cette usine consacrée à la vente. Oui, consacrée, un véritable temple. 36 000 mètres carrés de surface. Un parking souterrain sur 3 niveaux. Un parking extérieur de 3000 places, avec station essence, 2 étages de galeries marchandes, et au centre, le plus gros hypermarché du département. Un grand format, comme on dit dans le jargon. Tout ça datant des années 70 et relooké à la fin des années 90 avec verrière, installation d'un multiplex et déco high-tech. Ici, on a les moyens de relooker. Je dis ça parce que cette ville tout entière aurait besoin d'un sacré lifting. Ma ville. Une ville nouvelle, comme on la nomme encore. Mais nouvelle de 30 ans. Donc déjà vieille, grise. Les urbanistes l'ont collé là, au milieu de rien, entre des champs de blé, de colza et de maïs. Aux alentours, le néant. À part quelques fermes, quelques villages, des bleds, des trous. S'il n'y avait pas eu son patrimoine historique, on aurait presque pu voler le statut de préfecture à la ville voisine, distant de 50 km. On a quand même presque 40 000 habitants. À l'origine du projet, ils avaient envisagé le double. Puis la croissance s'est essoufflée, tout s'est arrêté. C'est étrange. Comment vous dire? Ma ville, c'est comme si elle était en pause. Comme si quelque chose s'était coincé, grippé, bloqué. Comme si elle était en voie d'achèvement à perpétuité. Comme si un dieu fatigué avait renoncé à la terminer. Il y a la gare immense. Derrière elle, rien, sinon la campagne. Pour le centre commercial, c'est pareil. De la plaine labourée à perte de vue. Et au loin, quelques arbres solitaires pour délimiter les parcelles. Derrière, ça devrait être la seconde tranche. De nouveaux immeubles, de nouveaux quartiers. Mais voilà, expansion à la traîne, plan qui retourne dans les cartons. Tout est figé, immobile, abandonné. Les champs nous engluent et j'ai parfois l'impression qu'un jour ils réussiront à reprendre le dessus, à grignoter avec persévérance ce que le béton a volé à la terre. L'année dernière, pour les vacances, je suis allé sur les plages du débarquement. J'ai visité le cimetière américain avec ses alignements de croix blanches. Puis je suis rentré chez moi. Ça faisait un paquet de kilomètres qui me séparait du cimetière, mais il y avait encore ces mêmes alignements. Sauf qu'il s'agissait de pavillons et d'immeubles. La construction à la va-vite, ça pardonne pas. Qu'elle se console, ma ville, elle a fait la fortune des promoteurs et des constructeurs peu scrupuleux qui, aujourd'hui, s'offrent des chaînes de télévision, sacrifiées à la grande gloire de l'audiovisuel. Mais maintenant, partout le béton s'effrite, se gangrène, laisse apparaître des escarres sanglants là où la rouille s'écoule en longues traînées brunâtres. Venu des plaines en toute liberté, le vent s'engouffre dans la rue principale, où les habitants ne s'attardent que les jours d'été. Les plus riches ont fui vers la périphérie, dans de petits vagues pavillons. On parle de faire tomber quelques barres d'immeubles. Les grands ensembles sont, paraît-il, une plaie à refermer. Alors, pour régler le problème, boum! Point de difficulté aplani. De complications résolues, non, juste le mal de vivre traité à la dynamite. Thérapie de choc. Une ville malade d'elle-même, de ses entreprises de sous-traitance pour petites mains dociles, de son pragmatisme. Ici, il vaut mieux un BEP qu'une licence universitaire. Ici, l'intellectuel est devenu suspect, improductif et inadapté. C'est la concurrence sociale qui veut ça. Celle qui fait que tu te sens coupable d'être au chômage parce que t'es sans doute trop délicat pour prendre ce qu'on te donne. Le travail n'est plus en droit. Il se mérite. Pourtant, il y a tout de même les gens et leurs mômes qui pullulent dans nos jambes. Du bonheur, rien que du bonheur. L'arrivée dans les boîtes aux lettres des prospectus du centre commercial reste à elle seule un événement culturel dans les quartiers. Pour le reste, nos ados s'ennuient. Comme partout, ils traînent. Dis, tu fais quoi samedi? On va au Méridien? Il y a ma sœur qui est d'accord pour nous emmener, on se fera un McDo? Génial. De temps en temps, quand il n'y a rien d'autre à faire, quelques-uns crament une voiture ou deux. Parce que c'est à la mode. Puis, il y a le frisson du danger, le côté antisocial, Kaira, héros moderne. Mais Superman comme héros, c'est dépassé, il faut comprendre les mômes. Un type qui met son slip par-dessus son froc n'a pas trop envie de s'identifier. Bon, je fais mon vieux con, là, tel que vous me voyez, mais croyez pas qu'il en a toujours été ainsi. Non, c'est juste que j'ai peut-être accumulé trop de fatigue, trop de rancœur et d'amertume. Corto m'a longtemps maintenu la tête hors de l'eau. Nous soutenions mutuellement, parce que notre boulot est ingrat et qu'il faut bien déconner un peu pour pas sombrer dans la schizophrénie, ni tomber dans la complaisance. Comprenez? Les voleurs à la sevette. Il y en a tout de même un paquet et on nous paye pour les guérir définitivement du virus. Sauf que notre préférence n'a jamais été de casser du pauvre. Alors on s'arrange comme on peut, on bricole joyeusement, on prend nos aises avec le règlement. De temps en temps, on s'offre une petite déconnade, histoire d'emmerder casamment notre cher directeur. Ou bien les collègues d'Univers Security quand ils ont tendance à se prendre un peu trop pour des keufs. Je les aimais bien avant. Avant qu'ils aient ce logo pourri, avant qu'ils appliquent la politique de leur nouvelle boîte. Avant qu'ils ne m'aient plus moi comme chef. À l'époque, j'aurais pu leur expliquer. Faire du zèle, ça rapporte rien. Un empire n'a pas d'alliés, il n'a que des vassaux. Allez, les trous du con, fléchis le genou et plus bas la tête quand vous saluez. Le jour de l'arrivée de Bertrand Casamance, il y a 7 ans, il n'y a eu ni fanfare, ni joyeuse banderole de bienvenue. Dire que le personnel pleurait son ex-patron, M. Perrochot. Un sacré bonhomme. Les méridiens de l'Éden, c'était sa fin de carrière à lui. Rien à voir avec une voie de garage, hein. Plutôt son gros défi. J'étais un des premiers ici. J'ai vu l'endroit pousser, s'agrandir. J'ai connu le moule Perrochot. Ce mélange de douceur et de fermeté, ce paternalisme à l'ancienne et d'innovation personnelle un peu bricolée. Avec M. Perrochot, on croyait à ce qu'on faisait. On se levait pas le matin en pestant, on réussissait à se détendre. C'était pas le bonheur. D'ailleurs, bosser dans la grande distribution n'a jamais été le bonheur. Et des périodes comme Noël, pour nous, c'est l'enfer emballé en papier cadeau. Mais globalement, à cette époque, il n'y avait pas trop à se plaindre. En témoignaient les fous rires, les connivences, l'esprit d'équipe. Les gens serraient les coudes, notre patron nous avait à la bonne. Parce que sans le dévouement de son personnel, il savait qu'il n'aurait jamais pu réussir à ce point. C'était quelque chose de tacite entre nous, une sorte de contrat oral jamais clairement formulé, qui posait le respect mutuel. Quand je repense à lui, j'ai l'image d'un pilier, d'un bloc, insensible à la pression du chiffre, comme ils disent. Dans les dernières années, les exigences financières de la maison mère étaient, paraît-il, quasi intolérables. Mais il a tenu bon. Rien n'a changé tant qu'il a été là. Quand M. Perrochot nous a dit qu'il nous quittait pour partir à la retraite, pour se remettre au golf selon la version de sa fille Marie-Cécile, le personnel a eu sacrément la trouille. Faut nous comprendre, on regarde les informations comme tout le monde. Je défie quiconque parmi nous d'expliquer dans le détail comment une multinationale réussit, légalement, à délocaliser. Mais des mots comme rentabilité maximale, ça... Tout le monde comprend. Donc, je ne sais pas ce qui nous a affolé, peut-être le petit discours de départ de notre ancien directeur sur le fait qu'il allait sans doute falloir évoluer, réapprendre de nouvelles méthodes, se faire au management moderne. Pour comprendre la réaction des collègues, il faut savoir qu'ici, dans cette ville, il y avait moins de chômage qu'ailleurs avant. Puis avec cette affaire de rentabilité, les entreprises du coin se sont mises à dégraisser doucement et des ouvriers se sont retrouvés sur le carreau, comme partout. L'apparition de l'informatique, de la robotique, du flux tendu. On se voyait donc dans le prochain wagon. Casamance est arrivé, avec son discours appris dans une boîte de gestion, sa tête de jeune communiant et son sourire de faux cul, façon « Nous faisons partie de la même maison et tout le monde s'aime ». Et j'ai bien cru qu'elle allait lui péter à la gueule, la maison. Mais rien. C'est à ça qu'on les reconnaît, les nouveaux managers du grand capital. Je l'avoue, j'ai réussi à... Calmer les esprits en si peu de temps, c'était vraiment balèze. Réussir à calmer les esprits en si peu de temps, c'était vraiment balèze, comme défi. Et il l'a fait, notre nouveau directeur. Et en 2 coups de cuillère à peau, il a commencé par annoncer qu'il n'allait virer personne, et il a tenu parole. Ensuite, il a dit qu'il n'était pas question de changer quoi que ce soit, il voulait d'abord apprendre, comprendre, m'étudier, m'analyser. Il a même embauché, d'ailleurs, on a vu apparaître un directeur du marketing et des ventes, et un directeur de l'approvisionnement et de la logistique. Le management à 3 têtes, qu'ils appellent ça, dans la grande distribution. Au bout de 6 mois, ils avaient apparemment tout appris, compris, étudié et analysé, vu qu'ils ont entamé la phase de réaménagement. En gros, faire mieux, plus vite, moins cher, et surtout, conquérir le client, parce que soi-disant, notre secteur était en crise. Il fallait les entendre, les discours de nos directeurs. Fini les alignements tristes de gondole. Place à la convivialité, à la petite boutique, à la proximité. Nous allons travailler une signalétique plus claire, du vert et jaune pour l'épicerie, du rouge pour la boucherie, du rose pour la charcuterie, du carrelage bleu et blanc pour la poissonnerie. Dans la zone de marché, un éclairage spécifique, hein, tout,
comme pour le rayon spiritueux qui aura bientôt sa cave voûtée en trompe-l'œil et ses lumières tamisées. 3 mois de bordel où je passais mon temps à renseigner toutes les grands-mères de la région sur le nouvel agencement du lieu. La tête de magasin, à la tête du magasin avec ses nouvelles zones d'achat plaisir. C'est simple, je reconnaissais plus rien. Mon hypermarché avec son parquet et ses étagères en bois, ses rayons hygiène beauté, lingerie fine, informatique, et puis il y a eu ses créations d'espace. Espace bijouterie, espace parapharmacie, librairie, audiovisuel, produits auto, jardinage, électroménager. On s'est demandé, Corto et moi, jusqu'où ils iraient dans la multispécialisation, comme ils disent. Un rayon sex shop, à la limite, ça ne nous aurait même pas étonné. Le plus dur dans cet agrandissement du magasin, ça a sans doute été la réorganisation des équipes et des emplois du temps. Le personnel d'aujourd'hui est un personnel qui fait preuve de réalisme et de volontarisme, nous a dit Casamance. Le réalisme, ça a été la nomination de nouveaux chefs de rayon, le rappel des temps de pause autorisés, le contrôle des déplacements. Ben ouais, pour aller pisser, il faut demander au chef. Et puis aussi l'apprentissage de nouveaux procédés de vente. Le client qu'on informe sur les produits compliqués, le client qu'on sécurise, le client qui on est avenant et disponible. Pour le volontarisme, ça nous paraissait clair comme concept. On voyait bien ce que c'était. Mais apparemment, nos connaissances sur la question devaient être erronées, caduques, dépassées, puisqu'ils ont entamé une phase de remotivation du personnel. Ah. Communication interne, évaluation et bilan de compétences, puis journée de formation obligatoire, grandiose. Une petite pièce, des équipes de 20 personnes réparties selon leur secteur d'activité, et en face, le joyeux formateur avec un rétroprojecteur. Après la distribution des polycopiers et des stylos, au moment où je me suis dit qu'ils espéraient peut-être qu'on prenne des notes comme des bons élèves, j'ai jeté un œil sur les collègues. Et bah, pétrifiés qu'ils étaient. Mon voisin, lui, écrivait tout frénétiquement. Il n'y avait rien à comprendre dans ce que disait l'intervenant, mais c'était pas grave. On fera le tri dehors, à la maison, en sécurité. Et Corto qui serrait les poings. Ouais, je sentais qu'il se retenait pour ne pas l'ouvrir. La direction avait fait les choses en grand, indéniablement. C'est tout un dispositif évoquant l'école qu'elle avait mise en place. Mais pour les grands, cette école, pour ceux qui étaient nuls, qui n'avaient rien foutu. Et le formateur, débitant ses slogans infantilisants, fallait le voir nous faire répéter son BCCC.
Bien chouchouter chaque client.
Ou son S-E-U-G-E-C.
Sourire est un gage d'entente et de convivialité.
Le sujet est sans oublier le fameux CCCC, surnommé le 4C.
Client content, client confiant.
La tête des plus vieux. Imaginez, 20 ans de boîte pour en arriver là. Ils ont tout bien retenu. Normal, la trouille c'est toujours le meilleur des moteurs, surtout quand il s'agit de survivre. Corto et moi, nous avons nous aussi docilement appliqué les consignes. Depuis la formation, le journal interne est affiché dans notre local. Nous soignons notre sourire. Seul le 4C a été réaménagé, personnalisé à notre sauce et encore confidentiellement, juste entre nous. C'est devenu Casamance conformément casse-couille. Car ça a tout de suite été la guerre. Ça s'est amplifié avec l'objectif de réduction des coûts. Les surveillants de maison s'étaient passés de mode. Trop cher. Casamance voulait délocaliser à sa manière. Et ben, c'est comme ça que la SARL Univers Security a débarqué au méridien de l'Éden. Chacun a joué les cartes qu'il avait dans sa manche. Notre patron a négocié avec la direction du travail pour que les primes de licenciement soient tirées au minimum. De notre côté, nous avons bataillé pour que le nouvel employeur conserve les primes d'ancienneté propres à chaque vigile. Pour finir, tous les copains ont repris leur ancien poste avec un peu moins d'argent à la fin du mois, des horaires plus contraignants, un joli logo sur le badge et cerise sur le gâteau, Gauthier sur le dos. Gauthier, c'est le seul qui a eu de l'avancement parce qu'il fallait un chef d'équipe. Pas vraiment méchant, mais particulièrement incompétent. Alors Casamance nous a gardé, Corto et moi. La pomme, c'est normal, parce que Univers Security ne voulait pas d'un type incapable de rester plus d'une heure debout. Et puis, il faut les comprendre, vous avez vu la taille du bestiau ? En fin de compte, ça arrangerait tout le monde que je reste là-haut aux commandes de mes caméras. Pour Corto, ça a été une autre paire de manches. Compliqué la négociation, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'était pas un simple face-à-face entre employé et employeur, non. Il y avait un troisième larron dans le couple, et pas pas n'importe lequel, le genre discret et efficace. Le genre qui renvoie la balle quand on lui demande, même si Corto ne m'a jamais clairement avoué que Monsieur Chaberto y était pour quelque chose dans ce petit miracle. Si, si, un miracle. Bon, pas façon Jésus-Christ multipliant les pains, non. Puis c'est dépassé ce genre de miracle, ça n'impressionne plus personne. Parce que depuis longtemps, la grande distribution fait 10 fois plus fort. Tenez, cette chaussure fabriquée par un gosse de 4 ans en Chine ou en Inde, où les uns font la droite, les autres la gauche pour qu'on soit sûr qu'ils ne les volent pas. Donc bah cette chaussure coûte à la fabrication 40 centimes, 40 centimes d'euros. Eh bien ici, on la vend 90 euros. Eh ouais, 225 fois plus cher. Bon bref, Jésus, côté marge bénéficiaire, c'était pas vraiment le top. Un débutant. Quoique je n'ai jamais regardé s'il y avait un copyright sur le Nouveau Testament. Bon. Donc Monsieur Chaberto est beaucoup plus fort côté miracle. C'est plutôt les chiffres de la criminalité qu'il est capable d'infléchir. Implacable, hein. Un truc pour un ministre de l'Intérieur. Comment vous dire, Monsieur Chaberto, ici au Méridien, c'est le voleur professionnel. Le genre à rabaisser Marie-Cécile au rang d'amatrice. Est-ce que tu peux changer de chaussure, s'il te plaît? Elle est là, sur la table, la paire de baskets qu'il a abandonnée dans la cabine. La semelle éliminée et la toile presque déchirée font pâle figure comparée à la paire neuve. Il acquiesce et commence à défaire ses lacets. Je l'observe. Il est jeune, un duvet naissant. Des boutons, en veux-tu, en voilà. Il se déchausse, pose les Nike sur la table et récupère son bien. Au vol, il me gratifie d'un regard pas piqué des verres. C'est pas de la haine, mais c'est pas loin. S'il pouvait me tuer, là, tout de suite, sans doute qu'il le ferait. Mais je voudrais lui dire. Tuer un homme n'est pas très difficile, Brandon. Il suffit juste de faire abstraction de ce qu'il est, de le dépersonnaliser, en faire un objet, ne voir en lui qu'une silhouette, un élément du décor, comme cette table. Il suffit d'être détaché. Je crois pas qu'il faille réfléchir, non. L'inconscient fait très bien ce genre de boulot tout seul. En témoignent ces génocidaires interrogés qui ne parlent pas de crime, mais de travail. Parce qu'il le fallait, affirme-t-il. Et si j'osais un rapprochement douteux, voire une hypothèse un peu tirée par les cheveux, je dirais que c'est peut-être ça la force de Casamance et de son équipe, le détachement. Parce qu'à l'époque de M. Perrochot, les employés paraissaient à leur aise. Il y avait peu de conflits, ils se sentaient appartenir au méridien de l'Éden, affiliés. Aujourd'hui, tout le monde baisse les bras, l'implication n'est plus là, les équipes se croisent mais ne travaillent plus ensemble, sans compter les intérimaires qu'on ne revoit pas. Certaines personnes se sentent plus nécessaires, tant on a nié leurs compétences, tant on leur a imposé des tâches simplistes, dénuées de toute responsabilité, de tout pouvoir, des exécutants, des simples machines supervisées en permanence, voilà ce qu'elles sont devenues. Voilà le pouvoir de Casamance, il a supprimé tout lien entre les uns et les autres. Et par là même, il a réussi un tour de force, celui de faire disparaître ce qui faisait de nous une équipe soudée, jusqu'à nous pousser à la résignation, au haussement d'épaule, au systématique. Qu'est-ce que ça peut faire? Pourtant, la direction n'ignore rien de la notion de lien. Le lien à la clientèle, c'est devenu une stratégie. La personnalisation, la proximité, l'attachement. Et vas-y que je te crée un service financier joignable 24 heures sur 24 avec de beaux crédits personnalisés. Vous vouliez du lien? Alors on va vous faire de belles caisses, rien que pour vous. Spécial client privilégié, spécial moins de 10 articles, spécial accès prioritaire. Et la suite, ce sera la suite. Une spéciale célibataire, ça vous dirait? Perdez plus de temps à la caisse ou alors perdez-le utilement. Faites des rencontres dans la file d'attente et promis, s'il y a épousailles et premier gamin, la direction vous offre un bon d'achat au rayon périculture. Bon, je m'égare, sonnez de tes yeux, Brandon, chargé de toute cette haine-là, de toute cette rancune qui me mettent mal à l'aise. Pourtant, je m'en suis bouffé des regards comme ça. Dès la première année ici, j'ai compris que ça allait pas être facile. La première fois que je me suis pointé en face d'une jeune fille, rouge pivoine pour lui coller mon badge sécurité devant le nez, quelque chose a changé en moi. Parce qu'humilier cette pauvre fille avec ses quatre soutifs enfilés l'un sur l'autre sous son pull, ça n'avait rien de bien glorieux. Mais c'était aussi ça mon boulot. Il a fallu faire avec et on se protège comme on peut. Alors je pourrais essayer de garder une certaine distance, ne pas me faire de mourons pour le petit voleur en face de moi. Seulement, mais comment en vouloir à Brandon? N'y a-t-il pas assez déjà à faire avec sa culpabilité et le sentiment confus d'avoir fait une grosse connerie? Peut-être s'imagine-t-il que ses parents vont venir le chercher et lui botter le cul, et qu'il s'en mord déjà les doigts, ce môme, d'avoir fait cette folie. J'ai pas envie de le mettre un peu plus face à ses erreurs. J'aimerais plutôt lui expliquer qu'il s'est fait piéger. Mais c'est pas ma mission, non, on me demande uniquement de veiller à ce qu'il recommence pas. Mais il recommencera. Regardez-le. C'est un cœur de cible, la proie parfaite des publicitaires. Le principal défaut de Brandon, c'est juste d'être au bout de la chaîne, celui où on consomme. Grâce à ses baskets, il va enfin être cool, il va avoir des potes, plaire aux filles. C'est ce que lui ont répété ses idoles dans les spots de pub, sans doute un footballeur ou un chanteur à la mode, un mec bien, un winner. Puis derrière le winner, il faut voir des dizaines de créatifs qui ont travaillé tard la nuit pour que le produit flatte son narcissisme à Brandon. Pour qu'il l'inscrive dans son époque, qu'il le rende authentique, puissant, immortel, hyper imaginatif et méritant. Beaucoup diraient que Brandon mérite ma réprobation, qu'il n'est pas obligé de les voler ses chaussures, mais voilà, bah, il n'a pas d'argent, et ses parents non plus. J'en ai vu beaucoup des parents dans cette pièce. La plupart se sentent obligés d'engueuler leur enfant, là, devant moi, pour bien montrer qu'ils ne démissionnent pas, parce que c'est un peu la honte pour eux aussi. Chaque fois, j'aimerais leur dire, vous faites pas de billes, un tel vol, pour nous, n'est qu'un préjudice minime, intégré dans les coûts. Ce que votre enfant a volé, vous l'avez sans doute déjà payé.
Du vigile. C'est ce qu'on vous a lu ce soir, c'était aux éditions L'Insomniaque, les maisons d'édition à Montreuil, et c'était de Joanne Charvel. On sait notamment qu'il participe activement à des actions de résistance à la pub. Ça se sent un petit peu dans ses textes.
Tout petit peu.
Voilà, sinon, pour les prochaines émissions, ou pour celle-ci, si vous voulez la réécouter, vous pouvez la podcaster sur le blog de l'UE Approuvé, qui est donc
lueapprouvé.noblogs.org.
Voilà. Et pour nous envoyer un email, vous pouvez l'envoyer à lueapprouvé@guyade.org.
C'est ça, GWIAD.org.
Voilà. Et donc pour les prochaines émissions, si vous voulez venir lire au studio ou proposer des lectures, vos voix, et contactez-nous.
Bonne semaine à vous.